Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, vendredi, terminée la fast fashion, la durabilité, c'est la clé de leur industrie grâce à des innovations technologiques, grâce à l'intelligence artificielle. Elle vient d'acquérir son principal concurrent américain et cette entreprise est la licorne de la mode. C'est une plateforme de vente et d'achat de produits de seconde main. La cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective est l'invitée de La France Bouge. À la une, la seconde main et même dans l'univers des enfants, il était plusieurs fois. C'est une start-up nantaise. Elle aussi, elle vient de lever plusieurs millions d'euros et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous emmène près de Rouen chez le leader mondial de la friperie. Il existe depuis 1974. Eureka Frippe, c'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on va à Lille pour recevoir Greenly Park et c'est une boutique de troc de vêtements.
Rendez-vous à 13h45 pour la découvrir. Et puis en fin d'émission, demain je change de vie. Irel vivait au Canada, elle travaillait dans la communication. Aujourd'hui, elle est en Bretagne, elle vient de monter sa propre marque de vêtements. Et oui, c'est ça, la France bouge, on ose, on avance. Bienvenue, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France Bouge. Aujourd'hui, on vend des vêtements, des chaussures, des bijoux entre particuliers. Ce marché de la seconde main explose. Cette entreprise tente de trouver des solutions pour l'industrie de la mode, la deuxième plus polluante au monde. Et on va en parler jusqu'à 14h avec l'acteur majeur en France. Bonjour Fanny Moison.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Vestiaire Collective. Vestiaire Collective a 13 ans. Vous vous êtes lancée à Paris. C'est de la revente de vêtements haut de gamme et luxe. Et ce qui vous différencie, c'est que vous, vous authentifiez les produits que vous mettez en vente, ce qui vous différencie avec d'autres plateformes. Vous avez su créer, Fanny Moison, un univers dédié aux passionnés de mode. En 13 ans, une croissance fulgurante, puisque vous êtes la seule licorne de la mode. C'était la 11e. Ça signifie que vous êtes valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Comment ça va en ce moment chez Vestiaire Collective?
Écoutez, merci d'abord pour votre invitation, Elisabeth. Ça va très bien. On est toujours très enthousiaste, très passionné par notre métier et avec plein de projets un peu partout dans le monde. Des équipes qui grandissent et une énergie qui est là comme au premier jour. Beaucoup d'ambition.
Alors quand vous dites que ça va très bien, on va rentrer un petit peu dans le détail. Kering est entré dans votre capitale l'année dernière. Là, vous venez d'acheter votre principal concurrent américain, Tradesi, c'est ça ?
Tradesi, ouais.
Tradesi, ça signifie que les États-Unis deviennent votre premier marché aujourd'hui ?
Oui, le premier marché aujourd'hui de Vestiaire Collective, c'est les États-Unis, qui représentent à peu près 30% du volume d'affaires. On est très fiers, c'est notre première acquisition, c'est un vrai... pas en avant pour nous, surtout d'aller le français qui achète un américain.
Oui, dans ce sens-là, c'est rare.
C'est très symbolique et on est ravis. On a les équipes qui sont actuellement, certains des équipes de Tradesi sont à Paris en train de se faire former. Donc on a une grosse étape d'intégration parce que ce n'est pas le tout de racheter des compagnies. Après, il faut mettre beaucoup d'intelligence à merger finalement les deux business, à fusionner les deux business et à faire en sorte que la mayonnaise et la magie prennent. Pour aller encore plus fort sur ce territoire américain qui est un territoire qui est très rompu déjà à l'occasion, avec pas mal de concurrence.
Oui, c'est un
aussi.
Marché qui a déjà été habitué. On connaît ce marché de l'occasion aux États-Unis. Nous, on est ravis de vous recevoir aussi parce que d'habitude, à La France Bouge, notre grand témoin du jour, notre grande patronne du jour, sont souvent des entreprises qui sont installées depuis longtemps, des entreprises françaises que nous connaissons tous. Vestiaire Collective, je suis sûre que parmi nos auditeurs, nos auditrices, certains ne connaissent pas. Et nous, on a eu envie de vous avoir parce qu'en 13 ans, la croissance est fulgurante pour qu'on puisse bien comprendre. Vestiaire Collective, c'est quoi ?
Alors, Vestiaire Collective, c'est un site e-commerce ou une application qui est dédiée donc à la mode d'occasion pour les hommes, les femmes et les enfants, entre particuliers. D'accord.
C'est ça, donc on est dans cet univers de la seconde main.
Complètement.
Sur toute la ligne.
Et l'idée de départ et votre introduction m'a beaucoup plu, parce que c'est exactement la raison pour laquelle on a monté Vestiaire Collective. C'est pour arrêter et pour dire stop à la fast fashion
et créer une mode durable.
Cette fast fashion, c'est ces vêtements qu'on achète pas très cher dans des grandes enseignes et finalement, on sait tous qu'ils sont fabriqués dans des conditions un peu limites.
Et qui sont relativement jetables. Et en fait, ce qu'on a constaté il y a 13 ans, c'est que cette mode, l'industrie de la mode, pour nous, marchait déjà sur la tête. Ce qui s'est passé, c'est que la fast fashion est arrivée bien avant et avait transformé complètement le paysage de l'industrie en forçant les marques existantes à accélérer leur rythme de production. De 2 collections par an, on était passé à
même 4 par an, parfois,
mais
pour certains.
Même chaque semaine, finalement, il y avait des nouveautés,
Du mardi,
dans les boutiques. Et ça a donné quoi? Ça a donné des consommateurs qui étaient devenus drogués à la nouveauté. Et avec des courbes de consommation de mode qui augmentaient sans arrêt, donc à peu près plus 60% sur les 10 dernières années, et un taux d'utilisation des vêtements que nous, consommateurs, possédions, qui ne cessait de diminuer. Donc le constat, c'était des garde-robes et des placards qui étaient pleins à craquer, beaucoup de plus en plus de consommation de ce que moi j'appelle la mode jetable, très bas de gamme, qu'on va acheter en quantité, mais qui finalement ne va pas durer parce qu'elle va se détériorer assez vite,
et qu'on
va s'enlacer.
On
va s'enlacer très vite. Et tout ça, à la fin, ça a créé beaucoup de gaspillage. Et on a voulu réinsuffler dans ce mode de consommation quelque chose de plus durable, en forçant finalement les gens et en incitant les gens à consommer de la qualité et des choses qui allaient durer dans le temps, quitte à les recycler, c'est-à-dire à les faire tourner. C'est OK de ne pas vouloir porter le même manteau pendant 10 ans, mais une fois que vous ne voulez plus le porter, vous pouvez le recycler, donc le remettre en vente et en acheter un nouveau, si tant est que vous en preniez soin et que vous le fassiez rentrer dans cette économie circulaire.
Nathalie Carré, une question pour vous.
Oui, bonjour. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais entre le manteau à 49 euros qu'on achète donc, dans ces boutiques dont on vient de parler, jetable, et le manteau à 800, 900 ou 1000 euros qu'on trouve chez vous, puisque vous êtes quand même positionné sur des marques très premium, on ne s'adresse quand même pas du tout à la même clientèle.
Alors,
donc, est-ce que Vestiaire Collective aide aussi à régler ces problèmes de fast fashion pour les gens qui ont des besoins, qui ont des moyens nettement moindres?
Bien sûr, bien sûr. Et là, je vais vous arrêter. Et c'est une fausse image que de dire aujourd'hui, Vestiaire Collective, bien évidemment, il y a du luxe. Mais le luxe représente à peu près que 40% de l'inventaire des 3 millions d'articles que vous avez sur le site. Et en fait, on s'est construit comme une véritable photographie de la mode. Donc, vous pouvez trouver des toutes petites marques très accessibles jusqu'à, effectivement, du haut luxe. Et pour le manteau à 49 euros, eh ben, à 49 euros, vous pouvez acheter soit une marque de fast fashion qui ne va pas durer, soit d'occasion, vous pouvez mettre exactement le même budget et avoir accès à une marque qui sera un peu plus durable, mieux construite et surtout qui aura une vraie valeur de revente. Donc l'idée, c'est ce qu'on appelle finalement un peu de l'upcycling, dans le sens où avec le même budget, vous pouvez acheter de la meilleure qualité et la revendre. Et cet article.
Donc en fait, il y a aussi une notion d'investissement. C'est-à-dire que quand j'achète un vêtement de qualité ou qui représente une marque, je me dis que j'investis, donc je pourrais le revendre. Il faut que je repense à la revente.
Tout à fait. C'est quand vous achetez du neuf, pensez déjà à la valeur de revente.
Mais ce n'est pas dans notre état d'esprit. Enfin, je ne sais pas vous, Nathalie, mais c'est vrai que quand on s'achète des vêtements, on se dit pas tout de suite, tiens, je vais pouvoir le revendre. C'est peut-être donc une nouvelle façon de consommer.
Complètement. C'est tout à fait l'idée. C'est arrêter de consommer en one-off, c'est-à-dire quelque chose que vous n'allez pas porter, que vous n'allez pas revendre, mais c'est investir un peu plus pour derrière récupérer une partie de votre investissement en permettant la revente. Et on sait qu'en faisant durer un article un peu plus en termes de durée de vie, c'est-à-dire 9 mois de plus d'usage d'un article, réduit son impact de 30 à 40% sur la planète.
C'est vrai que, comme disait Elisabeth, du coup, c'est vraiment du comportement, parce que ça veut dire qu'en fait, fini l'achat coup de cœur, parce que c'est souvent ça, en fait. On passe devant une vitrine, un truc, boum. Alors que là, vous dites, il faut réfléchir où est-ce que ce produit a été acheté, comment on pourrait le revendre demain, enfin, pour effectivement laisser notion de... Voilà,
on
réfléchit, voilà, achat raisonné, alors qu'on est plutôt entre femmes, on peut se le dire, on est plutôt en achat coup de cœur.
Les hommes aussi, hein.
Oui, c'est vrai.
Non, mais l'achat coup de cœur est toujours là. Moi, la première, il m'arrive d'avoir des coups de cœur et de les acheter. Après, je pense que c'est la qualité qui est derrière les vêtements. C'est un peu de conscience. C'est exactement
comme... Là, tout ce que vous portez aujourd'hui, ça vient de Vestiaire Collective ?
Quasiment. Je dirais 70% de ce que je porte. Mais je ne m'empêche pas d'acheter du neuf pour autant. Et c'est aussi ça, mes coups de cœur. C'est la pièce de la saison que je sais que je vais aimer porter. Mais quand je vais m'en lasser ou si je ne la porte pas assez à mon goût, je vais tout de suite la remettre en vente quand je sais que son niveau de prix et qu'elle est toujours désirable. Je vais très vite la recycler.
On va continuer à parler de vestiaire collectif, de vos innovations, de cette internationalisation, hein, puisque vous nous l'avez dit, Fanny Moisan, hein, les États-Unis deviennent donc le premier marché de vestiaire collectif, hein, cette belle entreprise qui existe depuis à peine 13 ans, qui connaît une croissance fulgurante. On va vous rester avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France, et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Et aujourd'hui, on parle de recyclage, non, on parle de vente de vêtements entre particuliers avec une entreprise, un acteur majeur en France. Ça s'appelle Vestiaire Collective et nous sommes ravis d'être avec vous, Fanny Moisan. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de cette belle pépite française. La vente de vêtements entre particuliers touche tous les âges, même chez Vestiaire Collective, vous vendez... Vous proposez aussi des vêtements pour les enfants, ouais, et pour les hommes.
Hommes, femmes, enfants.
Hommes, femmes, enfants. Gros plan là maintenant sur une start-up nantaise. Elle vient de lever 4 millions d'euros pour accompagner un modèle d'achat-vente en ligne de vêtements de seconde main pour enfants. Bonjour Audvio.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Il était plusieurs fois, ça existe depuis 5 ans. Et l'idée était partie donc de votre propre expérience. Hein. Vous vouliez habiller vos enfants avec des vêtements de seconde main parce que ce n'est pas possible de se ruiner quand on sait qu'ils vont les porter 2 mois. Sauf que vous n'avez pas trouvé grand-chose. Ou ce que vous trouviez, c'était pas, ça ne vous convenait pas. Et donc, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire.
Exactement. Donc, Il était plusieurs fois, on est un e-shop de vêtements de seconde main pour enfants de 0 à 16 ans. Et en fait, quand on a créé Il était plusieurs fois, on est parti d'un constat assez simple. C'est que d'un côté, on voulait habiller nos enfants avec des vêtements de seconde main, mais de qualité, et que ce soit assez simple. Et on n'a pas trouvé sur le marché de solution qui puisse correspondre à nos attentes, dans la mesure où il y avait à l'époque pas mal de plateformes C2C, mais qui n'assuraient pas la simplicité ni la qualité des vêtements.
Donc vous l'avez mise, vous avez organisé cette plateforme. Vous avez fait quoi? Donc comment ça se passe? Si on est vendeur ou si on est acheteur, comment ça fonctionne?
Alors aujourd'hui, côté vendeur, on s'adresse aux parents et aux marques. Les parents vont nous envoyer ou vont faire appel à notre service de collecte à domicile leurs articles.
Donc vous allez chercher les vêtements?
On peut aller chercher les vêtements. Exactement.
Qui est hyper pratique parce que c'est souvent l'envoi qui est un peu contraignant. Il faut mettre dans des paquets, mettre du scotch. Enfin, voilà, il faut avoir du temps pour tout ça.
Ouais. Nous, on s'adresse vraiment à des parents qui n'ont pas le temps. Il y a un volume de vêtements pour les enfants qui est énorme puisque la première vie de l'enfant, c'est quasiment 100 pièces. Donc, 100 pièces qui nous restent sur les bras. Et donc, on veut simplifier la vie des parents. Donc, les parents nous envoient ou font appel à ce service de collecte à domicile. Toutes ces pièces arrivent dans notre entrepôt qui se situe à côté de Nantes. Et là, on a une équipe aujourd'hui de 25 personnes qui va trier. Qui
25
va...
personnes
ouais, qui vont sélectionner. On reçoit à peu près 2000 pièces chaque jour.
Par jour, 2000
ouais,
pièces.
Ah ouais. Par jour, 2000 pièces de toute la France qui vont prendre en photo, qui vont mettre en ligne, en fait, qui vont faire tout à la place des parents. Et côté acheteur, on va retrouver sur un seul et même site des produits qui ont été sélectionnés. Une expérience qui est finalement très proche de celle du neuf et aussi tous les services qui vont avec, c'est-à-dire la possibilité de faire ses retours, avoir un SAV disponible. Donc, il y a une facilité aussi d'utilisation de notre site.
Comment sont payés les vendeurs?
Les vendeurs, ils sont payés sur une...
Si je vous dépose des vêtements ouais, demain, c'est...
Il y a une cagnotte et cette cagnotte, ils ont le choix. Soit de la dépenser sur le site pour rhabiller leurs enfants, soit de la transférer sur leur compte bancaire.
Directement. Nathalie Carré.
Oui, bonjour. Et vous travaillez aussi avec les bornes, parce qu'on peut aussi plus facilement aller avoir une borne en bas de chez soi et déposer nos vêtements là-bas. Vous pouvez les récupérer de ces
oui,
systèmes
ou comme un point
de
relais.
Oui, comme un point relais, oui.
Alors, aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec les bornes, mais cette, justement, vous parliez de notre levée, oui, on va aller implémenter des bornes, justement, pour que les parents puissent aussi directement déposer leurs articles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, oui, il faut qu'on offre une solution multicanale, l'envoi en direct, le service de collecte à domicile, et puis les parents qui veulent déposer sur leur chemin pour aller... travailler, que ce soit facile là aussi.
Vous venez de lever 4 millions d'euros. C'est une jeune start-up, hein, puisque ça existe depuis à peine 5 ans. Vous allez en faire quoi? Vous allez vous développer comment?
Alors, on va... D'abord, il faut qu'on arrive à scaler notre logistique. On a un complètement intégré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à traiter les vêtements de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, on met 3 minutes par article, de bout en bout de la chaîne. On rend 2000 articles par jour. Demain, il va falloir qu'on en rende 10 000.
Donc, il faut industrialiser.
Donc, il faut qu'on industrialise. Exactement. La deuxième chose, c'est renforcer donc justement ces points de relais, ce service de collecte à domicile et nos partenariats avec les marques, puisqu'on travaille avec déjà quelques marques textiles enfants. On voudrait aller plus loin avec elles. Et la troisième chose, c'est d'aller s'implémenter en retail.
Alors attendez, parlez-moi français,
ouais,
c'est-à-dire
sur des magasins physiques, dans des centres commerciaux.
C'est-à-dire qu'on puisse trouver, il était plusieurs fois, dans des magasins physiques, par exemple des petits stands, où ce seront des points de vente de seconde main au sein d'un magasin.
Point de vente, point de collecte.
Point de collecte. Je vous regarde, Fanny Moisan, cofondatrice et présidente de Vestir Collectif. Écoutez attentivement Audio pour Il était plusieurs fois. Ben, évidemment, là, vous revoyez il y a quelques années.
Bien sûr, non. Et je suis toujours très admiratrice de jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont des succès comme ça très, très chouettes. Et j'avais peut-être une question, savoir si tu avais, Aude, prévu une étape à l'international à un certain moment, peut-être pas tout de suite, mais où est-ce que ton marché, c'est la France ?
Alors, aujourd'hui, on veut vraiment devenir, déjà la première étape, c'est de devenir référent sur le marché de la seconde main en France. On a encore c'est énorme le marché déjà en France. Mais oui, demain, on a prévu d'ouvrir des marchés dans un premier temps assez proche de la France. Peut-être à venir aux États-Unis.
Fanny Moisan, justement, vous évoquez l'internationalisation. On l'a dit depuis le début de l'émission, vous êtes maintenant votre principal marché, ce sont les États-Unis. Cette internationalisation, c'était votre objectif de départ. Vous y pensez depuis le début de l'aventure de Vestir Collectif ?
Ouais, on l'a très très vite compris et on a su que c'était un vrai facteur de succès pour Vestir parce que finalement, nos business, celui d'Aude et le mien, ce sont des business d'offres. Donc, plus on a un catalogue qui est riche, qui est large, plus on va attirer la demande. Et c'est un cercle vertueux. Et en fait, sur nos modèles, donc voilà, il faut aller chercher beaucoup, beaucoup d'offres. Et la mode étant scalée, étant internationale, et le web, enfin le e-commerce également, c'était important pour nous d'aller très vite grandir à l'étranger. Donc, on s'est lancé en France.
En 2015, vous étiez déjà présente aux États-Unis.
Oui, mais bien avant ça, en 2012, on a mis un pied en Angleterre. Moi, je m'y suis installée personnellement en 2013. On a développé quasiment tous les pays européens à partir de 2013. Donc, j'ai lancé l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc., etc.
Et ça s'appelle Vestir Collectif dans tous ces pays ?
Partout. C'est le but aussi d'avoir une marque globale. 2015, les États-Unis. Et 2017, j'ai repris mon sac à dos et je suis partie cette fois-ci à Hong Kong pour développer toute l'Asie.
Il faut être sur place. Vous dites, je me suis installée à Londres. Là, je suis partie. C'est important pour un entrepreneur quand il veut pénétrer un marché étranger d'être... En immersion ?
C'est très important parce que la première chose que vous avez à comprendre, c'est justement vos clés d'internationalisation. Comment réagissent les consommateurs du pays en question que vous targetez ? Ce n'est pas tous les mêmes. Les Français ne consomment pas comme les Anglais, ni comme les Allemands, ni comme les Américains. Et c'est important d'être au contact de ce marché pour le comprendre.
Donc vous ne connaissez personne, vous arrivez, vous posez vos valises, vous ?
Exactement.
Et vous essayez
de... Je recrute une équipe.
C'est fort.
Parce que je ne fais pas tout toute seule non plus.
Bien sûr.
Mais je recrute une équipe qui m'aide. Et la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais une RP, une Public Relation Person.
Oui.
Et je lui dis, tu as 50% de mon temps, je veux connaître ce marché. Donc je veux rencontrer des journalistes, je veux rencontrer des influenceurs, je veux rencontrer mes clients. Et j'ai passé une année sur le terrain à parler.
Et l'Angleterre,
à parler et à écouter.
Ça représente quoi aujourd'hui l'Angleterre ?
Aujourd'hui, ça fait partie des premiers marchés européens. Il y a eu un petit moment difficile avec le Brexit, mais qu'on a su surmonter. Et voilà, et je pense que c'est une vraie clé de succès que de comprendre les mécanismes d'internationalisation. Et aussi, ce qui est important, c'est de donner l'ADN à nos équipes. Ça veut dire que quand on a ouvert cette première équipe en Angleterre, finalement, on avait des gens qui étaient très performants, très, très intelligents, très tout ce que vous voulez, mais qui n'avaient pas ce que nous, fondateurs, on avait dans les tripes, c'est-à-dire cette marque, le business model, comprendre vraiment avec finesse.
Leur montrer que ce n'est pas un simple business, mais il y a une histoire derrière.
Voilà, il y a un ADN, il y a des vraies valeurs, etc. Et comment ça se transmet ? C'est très difficile, c'est pas
Alors comment ça se transmet ?
Ça se transmet en étant au quotidien à côté des gens, en les manageant, en parlant, en les écoutant eux aussi, pour comprendre quels sont les différents travers de ce marché. Et en communiquant en fait votre passion et tout ce que vous avez créé sur
cette
marque.
Et par exemple, en Angleterre, ils consomment. Vous dites qu'il faut apprendre à savoir comment ils consomment.
Alors les Anglaises, elles sont très très rompues au e-commerce. Donc elles vont essayer tout de suite. Elles vont tester une première fois sans trop réfléchir. Et c'est ce premier achat qui va conditionner la suite et leur fidélité. Une Allemande, par exemple, elle va être beaucoup plus dans le dans le recul, dans, elle va analyser avec qui vous travaillez, vos partenaires, elle va presque lire vos conditions générales de vente.
Ah oui.
Donc elle va être beaucoup plus, elle va prendre plus de précautions avant de
plus
passer
prudente,
son, plus prudente, voilà, avant de passer son premier achat. Donc c'est des petites choses, mais qu'il faut comprendre parce que une Allemande, vous allez la réassurer différemment quand elle va arriver sur le site. Vous allez parler un tout petit peu différemment, vous allez lui présenter finalement votre business un tout petit peu différemment, sans rien changer. Mais c'est
dans l'approche, ce sera différent. Voilà, c'est quasiment du sur-mesure. Audio, cofondatrice, il était plusieurs fois. Je crois qu'il y a même un réseau d'ambassadrices qui vient aider à la maison. Si vous nous écoutez, que vous avez envie d'envoyer vos vêtements pour enfants à l'été plusieurs fois, elles peuvent venir aider les parents à faire le tri à domicile.
Oui, alors ça, c'est parti.
C'est pas mal, hein, franchement.
Ouais, de clients, de parents qui nous disaient, en fait, moi, faire le tri dans les placards, mettre en carton... c'est long, j'ai pas envie de le faire. Et on s'est dit, on va le faire pour vous. Et donc aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes en France qui vont directement chez les parents faire la sélection et nous envoyer cette marchandise.
Nathalie Carré ?
Oui, alors justement, il y a ce développement de la seconde main, comme ça fait une dizaine d'années, et pourtant la production de neuf ne baisse pas. Alors vous qui avez une vision mondiale,
est-ce que vous pensez... Moisan, là.
Oui, pardon Fanny. Est-ce que cette production va finalement baisser au service de la seconde main ou est-ce qu'en fait on aura toujours les deux modèles ?
Alors on aura toujours les deux modèles. Je pense que personne parmi les gens qui font de la seconde main ne veulent jamais tuer.
Oui, anéantir le
voilà,
neuf.
Voilà, parce qu'on est foncièrement des amoureux de la mode et on croit en la créativité et le savoir-faire des maisons. Maintenant, oui, la réalité c'est qu'on voudrait, nous chez Vestiaire Collective, voir baisser l'impact tout entier de cette industrie-là. Et j'ai un chiffre à vous donner, c'est qu'aujourd'hui, acheter sur Vestiaire Collective, donc du second-hand, c'est 10 fois moins polluant que d'acheter un produit neuf. On vient de sortir notre premier rapport d'impact, Impact Report en anglais, qui prouve, qu'on a étudié...
Mais comment ? Parce que pourtant, vous les envoyez en avion pour certains, les colis.
Oui.
Si je commande un produit là, à New York...
Bien sûr, mais on économise, bien évidemment, vous économisez tout l'amont, tout le cycle de production. Et en fait, nous-mêmes, à notre niveau, on réduit notre impact au maximum. On a été certifié B Corp l'année dernière. Donc, on a un vrai, vrai effort sur notre propre impact.
B Corp, pour nos auditeurs, ça signifie qu'au-delà de faire du business, vous faites attention à l'environnement. En gros,
voilà,
vous y prêtez une attention particulière.
La philosophie, exactement, de B Corp, c'est de placer au même niveau le profit, la planète et ses habitants.
Merci Audvio, cofondatrice. Il était plusieurs fois cette plateforme de seconde main dédiée aux enfants de 0 à 16 ans. Merci d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge. Fanny Moisan, vous êtes la cofondatrice et la présidente de Vestiaire Collective. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Direction Rouen, dans l'une des plus anciennes friperies de France. Entre 3500 et 4000 tonnes de vêtements sont stockées. Ça s'appelle Eureka Frip et c'est la saga du jour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, c'est une patronne, elle s'appelle Fanny Moisan. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, hein, c'est ce site de seconde main, hein, entre particuliers qui vend des vêtements, des accessoires, des bijoux qui cartonnent. C'est la licorne française de la mode. Ça signifie qu'elle est valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Et son premier marché, bien oui, ce sont les États-Unis. Donc rien que pour ça, bravo à vous Fanny Moisan. Alors si on rentre dans le détail de Vestiaire Collective et si on se place du côté du consommateur, effectivement votre modèle il est très intéressant pour l'acheteur parce qu'il peut s'offrir un objet, un vêtement qu'il ne pourrait pas s'offrir s'il allait dans un magasin qu'il achetait au prix du neuf. Mais pour le vendeur, en quoi est-ce que c'est intéressant quand on voit la concurrence? Il y a des Vinted, il y a des Boncoin, il y a des eBay. En quoi est-ce que c'est intéressant pour le vendeur de mettre sur votre site?
Alors la première raison, c'est que c'est extrêmement simple. Vous avez un processus de mise en vente qui se fait sur l'application ou sur le site internet qui est très très simple. Vous prenez votre application, votre produit, vous le photographiez, vous déterminez son prix, vous faites une rapide description et le produit arrive sur la plateforme en quelques heures. Et là, il va être disponible pour 23 millions de membres à travers le monde.
23 millions de membres connectés.
Connectés, donc à travers, sur 80 pays. Donc, c'est déjà un des premiers atouts de Vestiaire Collective, c'est de distribuer finalement
partout
votre produit partout dans le monde à des amateurs de mode. Et ça, c'est aussi la deuxième valeur ajoutée de Vestiaire, c'est qu'on a créé une communauté de passionnés qui connaissent la valeur des choses. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas vous négocier.
Il y en a beaucoup alors.
Oui. et c'est que le début. Et on ne va pas vous négocier votre article qui a une valeur X à X moins 99%.
Mais on peut négocier quand même, je crois, sur votre site.
Il y a effectivement une fonctionnalité qui s'appelle les offres. Pour faire une offre, alors c'est capé à un certain
Mais on ne peut pas
pourcentage.
Faire une offre en dessous de, d'un certain montant.
Et donc l'avantage, c'est qu'en gros, quand vous connaissez la valeur de vos produits, vous vendez très bien à une valeur qui est très honnête et pas bradée. On n'est pas là pour brader des pièces de qualité.
Alors je vends, c'est très bien, mais sauf que vous, il faut que vous gagnez votre vie hein, et vos équipes. Donc, vous prenez une commission.
On prend une commission de 15%.
15%.
Voilà, en moyenne.
Nathalie ?
Oui, alors Vinted est à 5%, sachant que chez vous, il y a aussi des frais d'authentification
exactement.
À payer.
Oui, ils vous authentifient voilà. Les produits, bien sûr.
Oui, mais c'est des frais en plus, je crois. Donc, qu'est-ce qui justifie cette différence, en fait, puisque Vinted aussi est une plateforme mondiale, si je ne m'abuse. C'est très facile aussi de vendre. Alors, complètement d'accord, pas française. Pourquoi cette différence, en fait ?
Alors, la différence, c'est que Vestiaire Collective, c'est un... Et je suis désolée, je vais vous faire un anglicisme, mais c'est un middleman, c'est quelqu'un qui est au milieu, c'est une plateforme de confiance, déjà.
C'est un tiers de confiance.
Un tiers de confiance, merci. Qui est là pour vous aider à toutes les étapes. Donc, la première étape, au niveau de la mise en vente, on va vous accompagner pour mieux faire vos photos, ajuster votre prix, etc., etc. Ensuite, on va être là, éventuellement, si vous le demandez, pour effectivement contrôler la qualité des produits et leur authenticité. On va vous garantir le paiement et on va vous proposer un service après-vente tout le temps. Donc, c'est vraiment un tiers de confiance à tous les moments de la plateforme, que vous soyez acheteur ou vendeur. Et c'est ça aussi qui fait la commission de Vestiaire Collective aujourd'hui. Et c'est des choses que vous ne pouvez pas trouver, par exemple, chez les concurrents.
Et il y a un point très important, on parle d'authentification. C'est marrant, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on entendait le flash info d'Emilie Dess qui nous disait qu'hier, donc, il y avait eu un vol énorme chez Chanel, rue de la Paix à Paris, avec un butin estimé à plus de 1 million d'euros. Comment vous savez ce que vous récupérez ? Voilà, imaginez demain, vous retrouvez dans vos ateliers, dans vos plateformes, j'imagine, avec des sacs de toutes les grandes marques de luxe, comment vous savez s'ils n'ont pas été volés, s'ils sont vrais, quoi derrière ?
C'est une très bonne question. On a créé ça depuis le premier jour. On a des équipes aujourd'hui, il y a plus de 50 personnes qui sont à travers le monde, qui sont dédiées à la qualité et à l'authenticité. Ce sont deux métiers différents. Sur la partie authenticité, on a aussi très tôt, en 2012, signé la charte de lutte anti-contrefaçon qui a été initiée par le gouvernement français et qui nous permet, nous, plateforme, de travailler main dans la main avec les maisons qui viennent à l'occasion et au besoin nous former et on vient discuter des problématiques sur les nouvelles collections, les nouveaux produits, etc. Et on a créé également en interne une académie. Donc on vient, quand on recrute, quand on a besoin de recruter des gens qui font ce travail d'authentifier.
En fait, ces experts d'authentifier, mais c'est un nouveau métier finalement. Vous avez créé un nouveau métier.
On a créé un nouveau métier, une école pour apprendre aux gens qui arrivent déjà, qui ont une sensibilité, qui arrivent d'une maison ou d'une filière de qualité, à faire ce travail. Parce que je vous l'accorde, c'est très difficile.
Mais c'est génial
même
comme nouveau métier.
Même moi, au bout de 13 ans, si vous mettez... D'ailleurs, on fait un jeu quand on reçoit des personnalités ou des journalistes dans les entrepôts. On leur propose le même sac ou le même article,
contrefait,
un vrai et un faux. Et je vous mets au défi de finalement identifier, parce que c'est extrêmement difficile. Et donc nous, on a, avec le temps, déjà rassemblé toutes ces compétences-là dans une école.
Il s'appelle comment le poste, la fiche de poste, c'est quoi le titre ?
C'est responsable authentification.
Authentification.
Et je vous invite à venir, Elisabeth,
c'est passionnant.
À Tourcoing, en tout cas voir nos équipes. Et c'est un vrai savoir-faire, c'est-à-dire que c'est presque, quand vous les voyez travailler, c'est une chorégraphie. Donc elles commencent, si elles authentifient un sac, par exemple avec les yeux fermés, et c'est le toucher qui va être le premier indicateur pour voir si, alors elles connaissent tout ça par cœur, mais si tel sac de telle marque a exactement le toucher. Ensuite elles vont sentir, parce qu'un cuir qui a été collé avec de la mauvaise, enfin déjà collé au lieu de cousu, ben ça sent la colle. Ensuite, elles vont rentrer détail par détail. Il y a tout un processus qui est incroyable, où elles vont vérifier étape par étape, détail par détail, la qualité des zips, comment le logo est gravé sur un, enfin embossé sur un produit. Ouais, elles connaissent.
C'est un métier d'art, quasiment.
C'est comme les experts des maisons de vente aux enchères, en fait.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est un vrai métier qui est absolument incroyable à voir, à regarder. Mais... Et c'est une expertise.
C'est une expertise rare. J'imagine qu'ils gagnent bien leur vie.
Ce sont effectivement des métiers qui sont bien rémunérés et qui sont très rares et qui prennent du temps à être formés.
Bien sûr.
Et par exemple, ce qu'on fait nous, c'est qu'on... Donc le premier entrepôt, c'est l'entrepôt français, donc qui est aujourd'hui basé à Tourcoing. Et on forme ces personnes-là et on les expatrie. Moi, j'ai reçu à Hong Kong dans l'entrepôt de Hong Kong maintenant trois personnes qui avaient commencé chez nous en France.
À Tourcoing. Et qui vivent maintenant à Hong Kong.
Voilà.
C'est génial.
À Hong Kong, j'ai recruté également quelqu'un qui maintenant travaille à New York et gère une équipe à New York. Et c'est des métiers absolument incroyables.
Très belles opportunités.
Voilà. Et on
d'évolution.
Leur, voilà. On leur offre une carrière à l'international et la gestion d'équipe grâce à ce nouveau métier.
Et par exemple, quand il y a des vols, on vous prévient, les grandes maisons vous préviennent. Attention, on nous a volé tant de sacs, de tels. Voici les numéros. Est-ce que ça, vous êtes prévenu? Par exemple, je fais référence à ce vol qui a eu lieu chez Chanel hier, rue de la Paix. Est-ce que vous avez déjà eu des alertes là-dessus?
Alors, peut-être pas en amont à ce niveau-là, mais en tout cas, nous, on est très vigilants parce que la première étape sur Vestiaire Collective, c'est ce qu'on appelle la modération. Donc, votre sac, si vous le vendez sur Vestiaire, on a une première équipe qui va, avant que l'article soit publié, qui va vérifier tout ce que vous avez dit.
Donc déjà, s'il est neuf, déjà, vous allez. S'il est neuf, a priori, vous allez l'évacuer, de fait.
Exactement. On ne va pas forcément l'évacuer parce qu'on a des clientes qui se voient offrir un
cadeau. Ah oui, qui pourraient avoir des. Oui, voilà. Des biens pas.
Mais par contre, si on n'a pas d'indication sur le vendeur et que du jour au lendemain, il nous dépose 10 sacs neufs, effectivement, et qu'on ne sait pas d'où il vient, etc., on va tout de suite revenir vers lui demander des justificatifs d'achat. On va aller creuser, en fait, pour comprendre qui est derrière. Et c'est ça aussi la sécurité que vous avez sur Vestiaire Collective. C'est-à-dire que. Avant que les produits arrivent en ligne, il y a une première étape de filtrage, finalement,
bien
qui
sûr.
A été faite.
Et
après, il y a la deuxième physique.
C'est pour ça qu'on ne trouve pas tout. Tout n'est pas possible chez Vestiaire Collective.
Exactement.
Et c'est ce qu'on paye aussi avec cette authentification. Alors, chaque jour, dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'une association qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter les locaux d'Eureka Frips. Ce sont, les ancêtres de Vestiaire Collective. mais bon, voilà, j'exagère un petit peu. Ce sont des vêtements et des produits de seconde main. Ça existe depuis 1974. Et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Paillet.
Bonjour Elisabeth.
Vous nous amenez donc près de Rouen, chez le géant du textile de la seconde main. Ça existe depuis 1974. Ils ont des marques comme Hippie Market ou encore Killy Watch et ça s'appelle Eureka Frip.
Oui, et tout commence avec un homme, Bernard Graff. Dans les années 1970, il a une idée de génie, revendre sur les marchés les vêtements délaissés du pressing de ses parents. L'idée prend de l'ampleur et de fil en aiguille, il crée Eureka Frip, comme nous l'explique Eric Ray, directeur retail du groupe DB Invest.
Alors, la fripe, elle a toujours existé. Sauf que la fripe, si vous voulez, on était considérés comme des chiffonniers. Et petit à petit, il y a des personnes de la mode qui se sont accaparées la fripe. Ils se sont rendus compte, ces personnes, que l'avantage, c'est qu'il y avait un prix, que le prix était léger par rapport à du neuf. Et puis, dans les années 2000, la fripe s'est complètement démocratisée avec les réseaux sociaux et avec la presse. Lorsqu'on a commencé à citer des artistes ou des gens connus qui commençaient à marier du vintage avec du neuf.
Eureka Frip, aujourd'hui, c'est un immense entrepôt de 24 000 mètres carrés à côté de Rouen. L'entreprise a deux activités, vendre la fripe en gros à des détaillants, des stylistes et des costumières et alimenter le réseau d'enseignes du groupe.
Alors ça marche très très bien, Eureka Frip. Et à partir de 1985, quatre enseignes ont été créées, il a développé finalement.
Oui Elisabeth, Hippie Market, Culture Vintage, Killy Watch et Kilo Shop qui vend les vêtements d'une manière un peu particulière.
Le prix varie selon le poids du vêtement. Et pour connaître le prix, il existe quatre pastilles. Une pastille rouge qui représente le prix au kilo de 20 euros. Une pastille verte où nous sommes à 30 euros le kilo. Une pastille bleue à 40 euros le kilo. Et une pastille orange à 60 euros le kilo. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple, lorsqu'un client rentre chez nous et qu'il achète un vieux jean Levi's, généralement un jean c'est 700 grammes. Et lorsque celui-ci est vendu à 20 euros le kilo, le client va le payer aux alentours de 14 euros.
Alors Eureka Frip, c'est un succès dans le monde entier et l'entreprise a même 5 filiales à l'étranger, on n'imagine pas.
Oui Elisabeth, 2 aux États-Unis, 1 au Japon, 1 en Australie et 1 en Hollande. Et cette présence en France et à l'étranger fait d'Eureka Frip une vigie des nouvelles tendances.
On le voit de deux manières. La première manière, quand vous avez le monde entier qui vient acheter de la frip chez nous, donc ce sont des détaillants, voire des groupes, qui commencent à demander certains types de marchandises, on commence à s'interroger. Pourquoi ils vont chercher tel type de marchandises? Ensuite, notre métier, c'est de regarder les magazines, de comprendre ce que les magazines mettent en avant. Donc on a différentes façons de voir quelle va être la mode.
Et l'engouement pour la fripe ne se dément pas. Rien qu'en France, l'entreprise vend 5 tonnes de vêtements par semaine.
Merci Quentin Paillet. C'était la saga du jour d'Eureka Fripe, un pionnier dans la seconde vie du vêtement depuis 1974. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, bien entendu, de la Chambre de commerce et d'industrie, et avec Fanny Moison, cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective. Fanny, là on parlait des fripes. Hein. Les fripes, ce sont quand même des vêtements usés d'occasion. On est bien d'accord chez Vestiaire Collective, grâce à tout ce système d'authentification, on n'est pas dans le vêtement usé, on est dans le vêtement quasi neuf.
On est dans le vêtement quasi neuf, en effet. Il y a des vêtements qui ont été un petit peu portés, mais on essaye vraiment d'aller chercher des produits qui sont de très haute qualité. Mmh. Et on a également un service dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle notre service VIP. Donc si vous avez la chance d'être basé à Paris, que vous avez des placards qui sont bien remplis avec des produits de qualité et plutôt de belles marques, on peut également, comme Aude le disait tout à l'heure pour son modèle à elle, on peut se déplacer, venir chez vous, récupérer vos produits et tout faire pour vous. C'est-à-dire on va les décrire, les prendre en photo, les stocker.
Et là, vous prenez combien en commission ?
Là, c'est une commission qui est un peu plus élevée, c'est 25%.
25% sur le prix de vente.
Voilà, mais vous n'avez strictement rien
strictement,
à faire.
Strictement rien à faire. Ça, c'est du côté du consommateur, mais vous travaillez aussi avec des marques, Fanny Moison, qui peut-être n'ont pas développé leur circuit de seconde main. Est-ce que vous pourriez devenir, entre guillemets, leur sous-traitant ?
Complètement. C'est un nouveau service qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an, qui partait du principe que on pense vraiment que dans l'avenir, toutes les maisons...
Il faut qu'elles s'y mettent. Hein.
Toutes les marques.
Il n'y a pas une journée où on ne nous dit pas, on a monté, où on nous réfléchit à notre service de seconde main.
Exactement, parce que finalement, ce que les marques ont compris, c'est que ce sont les mêmes consommateurs qui achètent et qui revendent de la mode de première main et de seconde main. Donc, ils ont vraiment compris que c'était le futur, qu'ils n'allaient pas y couper. Mmh. Et on a commencé à les aider l'année dernière déjà. On a fait un premier pilote avec la marque Alexander McQueen. Ensuite, on a lancé avec MyTheresa, qui est un e-commerçant allemand. Et on est en train de développer d'autres pilotes avec d'autres marques. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à leurs clients de revendre sur Vestiaire Collective. Là, c'est un tout petit peu différent. On va racheter les pièces. Donc, on leur dit, voilà, il y a 40 marques, par exemple, qu'on référence, qu'on veut bien racheter. Mmh. Donc, on leur propose un formulaire de dépôt qui est très, très simple. On va évaluer la pièce et leur donner un prix. Si le client accepte de la vendre, nous, on va la racheter. On la stocke dans nos entrepôts. Et le même client va recevoir la valeur de sa vente.
Un bon d'achat.
Plus un certain pourcentage que le partenaire va bien vouloir accorder à dépenser chez le partenaire.
Oui, donc c'est de l'argent qui ne sort pas. C'est un bon cercle vertueux.
Et puis, c'est faire rentrer surtout des consommateurs qui n'étaient pas encore rompus à l'occasion dans cette circularité.
Vous avez Kering qui est rentré dans votre capital il y a un an. Est-ce que ça ne vous interdit pas des marques comme Dior, Vuitton ?
Au contraire, je pense que c'est c'est le but de Kering, non, de vous utiliser pour cette seconde main qu'ils voulaient développer ? C'est idéal cette rencontre.
C'est effectivement idéal, mais alors il n'y a pas d'exclusivité aucune d'un côté comme de l'autre. Mais c'est surtout d'apprendre de nos challenges respectifs. Effectivement, nous, on leur apprend, et en travaillant avec Alexander McQueen, c'était un peu ça. On leur apprend ces nouveaux modèles. Et nous, on apprend aussi de tous les challenges qu'ils peuvent avoir sur la première main. Et notamment sur le développement durable, on travaille vraiment main dans la main. Ils nous ont aidés sur notre premier rapport d'impact. Et on les aide aussi, on communique en permanence. Donc c'est vraiment un cercle vertueux.
Vertueux à tous les niveaux. Vous restez avec nous, Fanny Moison, cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective. Vous allez, coacher, accompagner une entrepreneur qui se lance. Vous êtes prête ?
Avec plaisir.
On continue. Europe 1. À suivre, ce projet est à mi-chemin entre la friperie, le vide dressing. C'est renouveler sa garde-robe pour nous, pour nos enfants, avec des vêtements d'occasion grâce à l'échange. Ça s'appelle Green Deepa. Et c'est le moment du pitch des trophées de l'avenir avec les bons conseils de Nathalie Carré. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est une patronne. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante aussi. C'est une experte. Aujourd'hui, c'est Fanny Moison. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Vestiaire Collective. Tiens, justement, Fanny Moison, j'ai une question d'un auditeur, Olivier, sur Twitter, qui vous demande pourquoi ça s'appelle Vestiaire Collective et pas Vestiaire Collectif.
Alors, c'est une bonne question, Olivier. La petite histoire derrière tout ça, c'est qu'on s'est lancé en 2009, on s'appelait Vestiaire de Copines. On s'est lancé en France. C'était un nom qui était absolument génial pour la France.
Pour la France.
Mais quand on a mis un pied en Angleterre, ça devenait très compliqué pour une Anglaise de taper vestiaire de copine sur Google. Ça ne veut rien dire en anglais. Et c'est là qu'on a compris que voilà,
il fallait changer
marque, il fallait qu'elle soit
universelle.
Et que collective, du coup, ça symbolisait vraiment la communauté. Et c'est le mot anglais. On a voulu garder vestiaire qui était qui nous représentait. Donc on a collé un mot français, un mot anglais pour partir à l'international.
Vestiaire collective. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, dans les trophées de l'avenir européen, on a un projet qui a été lancé en 2020, juste avant le premier confinement. Bonjour Camille Courmont.
Bonjour.
Vous avez 33 ans, vous êtes la fondatrice de Grindy Pact, G-R-2-E-N-D-Y-P-A-C-T, Grindy Pact. C'est une boutique d'échange de vêtements à Lille. Vous dites que c'est la première boutique en France où on peut échanger nos vêtements, nos accessoires de seconde main pour les femmes et pour les enfants âgés de 0 à 6 ans. Vous venez de l'univers de la communication et du marketing et vous avez décidé de monter votre boîte parce que vous en aviez assez de cette surconsommation de vêtements. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti, vous avez une minute pour nous convaincre. Okay. C'est parti.
Merci beaucoup. Donc oui, en effet, Grindy Pact, on propose un service d'échange de vêtements avec un fonctionnement qui est très simple et qui est basé sur le troc. Donc en fait, nos clientes nous amènent les vêtements qu'elles ne portent plus directement en boutique. On est situé à Lille. On va vérifier que les produits sont en très bon état, sans trousse, sans tache, de saison et aussi encore cool et dans l'air du temps. Et en fonction du nombre de pièces qu'on va leur valider, elles vont pouvoir en choisir autant directement en boutique. Et pour accéder au service, il leur faudra un pass. Donc on a différentes formules d'abonnement qui permettent d'accéder du coup à ce service d'échange. La volonté d'aller faire du physique, c'est parce que moi déjà personnellement, je ne suis pas hyper fan du côté digital. Je trouve que c'est très contraignant de prendre des photos, d'envoyer des colis, surtout quand on a des pièces d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, c'est-à-dire qui n'ont pas une valeur de revente financière très élevée. Donc là, c'est tout l'intérêt de pouvoir profiter d'une expérience shopping qui est physique. On continue de partager ces bons moments en famille ou entre amis. Et puis finalement, ça permet de renouveler son dressing dans un circuit qui est 100% circulaire.
Le bon vieux troc, finalement.
Le bon vieux troc.
C'est notre première monnaie. Hein.
C'est ça.
Merci à vous, Camille Courmont, fondatrice de Grindy Pact. Je me tourne vers Nathalie Carré, qui est donc en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui analyse, qui épluche chaque jour vos dossiers, vos projets d'entreprise. Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie, selon vous, de Grindy Pact ?
Eh bien oui, le troc, méthode de commerce qui date du début du 7e siècle, avant notre ère. Ça revient et ça fonctionne. En plus, votre boutique est sympa, c'est rangé. Ça change des gros bacs de vrac de certaines friperies.
C'est vrai.
C'est vrai, franchement.
Moi, ça me fait partir.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, vous avez une version en ligne. Donc, l'idée, ce n'est pas d'acheter en ligne, mais c'est qu'on peut voir ce que vous avez en stock. Et puis, donc, ça nous permet d'éviter de nous déplacer. L'une des forces de votre concept, c'est la monnaie virtuelle Grindy. Donc, ça crée un cycle vertueux. Et puis, ça peut motiver vos clients et clientes à mobiliser leurs amis pour qu'ils s'y mettent également, pour que le choix s'agrandisse. Puis vous avez des formules d'abonnement, vous fonctionnez comme un club, ça crée une communauté qui partage les mêmes valeurs. Alors, je n'ai pas de points améliorés, mais quelques idées pour vous aider dans votre développement, puisqu'on attend que vous soyez à côté de chez nous, évidemment. Donc vous avez des boutiques solidaires aujourd'hui qui fonctionnent grâce au bénévolat. Peut-être que parmi votre communauté, qui est déjà importante alors que vous démarrez, vous pouvez trouver des hommes et des femmes qui ont envie de donner quelques heures par semaine ou par mois pour tenir la boutique. Ça vous permettrait de vous concentrer sur le développement d'entreprise et d'ouvrir la boutique toute la semaine, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est du mercredi au samedi. Puis, il y a des logiciels qui coûtent quelques euros qui pourraient vous aider à gérer tous ces bénévoles. Ensuite, pour vous faire connaître dans les quartiers, dans les villes et les villages alentours, là encore, appuyez-vous sur votre communauté. Organisez des réunions de troc à domicile où chaque personne, évidemment, vient avec quelques vêtements à échanger. Évidemment, les ambassadrices seront remerciées avec un abonnement annuel, par exemple. Ça crée une sorte d'extension de la boutique puisque elle n'est pas extensible. Mais surtout, ça vous fait connaître et ça fait découvrir le troc et tous ses avantages. Puis au-delà de leur intérêt économique et financier, ces deux idées, il y en a plein d'autres, peuvent vous permettre de tester des formules qui pourraient aider votre développement dans le reste de la France. En effet, pour ce développement d'entreprise, le modèle de la franchise est intéressant, mais votre concept peut certainement attirer de jeunes gens qui aiment la mode, mais pas à n'importe quel prix, mais qui n'ont pas nécessairement les fonds propres pour s'endetter et ouvrir une boutique. Donc si votre concept peut s'appuyer sur une communauté solidaire qui s'engage ensemble pour changer les codes de la mode, il peut essaimer dans la plupart des villes et des villages sous des formes différentes, des trocs à domicile, des boutiques, etc., dans des lieux différents, peu importe, pourvu que chaque Français ait un lieu de troc à moins de 10 km de chez lui. Parce que Grindy Pact, c'est le troc de vêtements d'aujourd'hui qui s'engage pour demain.
Je vous vois sourire. Merci Nathalie, ça fait sourire Camille.
Bah oui, oui, merci, parce que c'est déjà de très très bons conseils. Et effectivement, dans cette volonté de développement, aujourd'hui on est au tout début de l'aventure de la boutique, on a 2 ans et demi, et on est encore à tester. Il faut qu'on teste plein de choses, je garde tout en tête.
Mais de toute façon, si vous n'avez pas tout gardé en tête sur Europe1.fr ou en podcast, vous pouvez écouter les bons conseils de Nathalie Carré. Fanny Moison, cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective. Vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur ce projet?
Je trouve que c'est très frais, vous le disiez, c'est vieux comme le monde, mais à la fois on a envie de ces nouveaux modèles, on a envie d'une boutique bien rangée, on a envie de faire partie d'une communauté, de rentrer dans cette circularité par un biais ou un autre, donc bravo, moi je suis aussi admiratrice.
Merci.
Et j'avais peut-être une question, c'était... En parlant tout à l'heure avant l'émission, tu parlais d'impact. Déjà, tu as l'air d'avoir vraiment quelque chose de très fort pour en termes de développement durable, une réflexion en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui est mature? Est-ce que vous voulez vous lancer dans des process comme B Corp ou autre?
Entreprise à mission.
Voilà.
Alors oui, clairement, à long terme, c'est évidemment la volonté. Aujourd'hui, déjà, en termes d'impact, en parallèle de la boutique, on propose un parcours, et donc c'est toute la partie digitale de Green Impact, c'est qu'on propose un parcours qui est ludique et éducatif, donc un parcours de gamification qui permet vraiment de récompenser nos clientes et toute la communauté au fur et à mesure de leurs échanges. Et donc, on va aller les valoriser, les féliciter, leur donner de l'information aussi sur les alternatives qui existent pour consommer mieux, moins, que ce soit dans le textile, enfin dans la mode ou surtout plein d'autres sujets. Donc aujourd'hui, on est vraiment déjà dans cette démarche d'accompagnement. On n'est pas qu'une boutique. J'ai vraiment envie qu'on soit un acteur de ce changement de comportement qui passe par l'éducation. Et voilà.
Et bravo. Il pourrait y avoir d'autres Green Impact ailleurs qu'à Lille? C'est votre objectif?
Absolument.
De faire plein de petits?
Ah ben, plein.
Des petits, les géants du troc.
Hein, les mini du troc, faut que ça reste en proximité. Ouais, mais il faut que ça reste en proximité. Et voilà, un commerce local, je vois grand, mais je vois aussi très proche et très en proximité. Donc voilà, il y aura plein de mini.
70 mètres carrés de boutique, environ 30 000 vêtements sont déposés chaque jour ou...
Non, sur les deux premières années.
C'est déjà, pas mal. Fanny Moison, vous recrutez, vous, cette année, chez Vestiaire Collective, où vous nous parliez tout à l'heure de ces chargés, ces responsables d'authentification. Est-ce que vous recrutez?
On recrute toujours beaucoup. On est à peu près 700 aujourd'hui à travers le monde chez Vestiaire Collective. Et on recrute beaucoup dans tous les métiers. En ce moment, beaucoup en Asie. On n'en a pas parlé, mais c'est notre prochaine étape.
Le Japon?
Alors, Japon, Corée. Moi, je me suis installée à Hong Kong. On avait développé Hong Kong, Singapour, l'Australie. Et là, les deux grosses prochaines étapes de Vestiaire cette année, ce sera la Corée, là, en juillet. Et puis le Japon, avant la fin de l'année. Donc là-bas, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de recrutements qui ont lieu. Mais aussi partout en Europe et aux États-Unis.
Donc, on recrute chez Vestiaire Collective. Nathalie Carré, je crois que vous avez une question avant qu'on se quitte tous, là.
Oui, est-ce qu'il y a des pays qui sont... Vous avez dit les États-Unis, qui sont très en avance sur la seconde main. Côté Asie, ils se comportent comment?
Alors, Asie, il y a une exception à la règle, qui est le Japon, qui est le premier pays au monde en termes de deuxième main. Parce que, historiquement, le vintage est très, très fort. Vous connaissez les jeans vintage japonais.
C'est vrai.
C'est une culture, en fait, aussi beaucoup de cadeaux. Et de revente derrière. Donc, vous allez à Tokyo, presque tous les coins de rue, vous avez une boutique de deuxième
main. De
revente
de cadeaux.
Voilà. Beaucoup de. Voilà. Donc, le Japon est un très, très gros marché. Mais à part ça, ce sont plutôt des marchés naissants, si on regarde comparé à l'Europe et aux États-Unis. Il y avait encore, il y a quelques années, moi, quand je suis arrivée, les stigmas de la seconde main où les gens avaient peur parce que ça a été déjà porté. Et très, très vite, on se rend compte que sous l'influence des millennials et des Gen Z, c'est en train de changer. Et ils ont très vite compris qu'il y avait une vraie valeur, déjà écologique et financière, à acheter ou vendre de la seconde main. Donc c'est en train d'exploser là-bas aussi.
C'est en train d'exploser la seconde main. C'est déjà la fin de votre émission. On en sait davantage sur ce marché qui explose, qui est le marché de la seconde main. Merci à vous. Déjà, merci à Camille Courmont, notre pitcheuse du jour pour Green Impact, une boutique d'échange de vêtements à Lille, basée sur le troc.
Ouais.
Et merci à vous, Fanny Moison, cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective. On vous souhaite bonne chance.
Merci,
ça cartonne et on vous souhaite encore plein de belles nouvelles. C'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Carré, on se retrouve demain.
À demain.
Tout de suite, le flash suivi de Christophe Ondelat.